C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up.
Please
shut
stop.
Up.
I...
Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les gros.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie sur votre radio préférée. C'est déjà l'épisode 37 de la saison 2 ce soir, avant-dernier épisode de la saison, avec Aurore à mes côtés pour vous parler séries télévisées évidemment.
Bonsoir.
Bonsoir, et puis comme chaque semaine c'est devenu une habitude, on va d'abord passer en revue certains pilotes qui ont été revus cette semaine.
Oui, tout à fait. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec une série française, ou en tout cas, une mini-série. Allez, on va appeler ça comme ça, même si tu sais bien que j'ai l'habitude d'estimer que quand il y a que 3 épisodes, généralement, c'est un téléfilm. Hein.
Oui, mais c'est bon. Ce que j'allais dire péjorativement, c'est plutôt un téléfilm. Mais bon, voilà.
Mais ça fait plus hype de dire une mini-série, donc on va l'appeler comme ça. Et il s'agit donc de Intrusion qui a été diffusée par Arte il y a peu. Donc, tout le monde, j'imagine,
a eu
l'occasion de regarder, qui a même été en accès normalement en replay. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au minimum, je crois que la semaine qui suit, c'est en replay sur le site d'Arte, soit. Et donc, il s'agit d'une série qui nous propose de suivre un grand pianiste qui ne va pas bien avant un concert et qui va, on l'imagine parce que c'est pas très clair et c'est justement un petit peu là qu'est tout le mystère, perdre connaissance pendant son grand concert. Et à partir de là, il va se retrouver dans un univers totalement incroyable, c'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même, que son frère jumeau, qui est censé être mort, est bel et bien vivant, et que non seulement son frère jumeau est bien vivant, mais que son frère jumeau, c'est lui. C'est-à-dire
c'est compliqué.
Que
lui, moi, j'ai pas tout suivi.
Son frère jumeau est devenu le pianiste et lui est devenu l'autre, celui
censé être mort,
celui
mais
qui est censé
n'est pas mort.
Être mort, alors qu'il a quand même bien conscience d'être lui-même et enfin, c'est assez compliqué.
Rassure-moi, t'as tout regardé ?
J'ai tout regardé.
Mon Dieu.
3 épisodes, donc alors. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je ne vais pas dire que c'était une série exceptionnelle et que je n'en reviens toujours pas. Mais franchement, c'est suffisamment prenant pour se dire j'y consacre les trois fois 40 minutes que ça prend. Quoi, hein. C'est
okay.
Pas non plus
c'est prenant,
la
maintenant.
Mer à boire. C'est relativement prenant puisque on a quand même envie de savoir au final
oui.
Ce qui se passe.
Mais sans dire la fin, est-ce que ça valait la peine ?
Ça valait la peine, plutôt, oui. Je dois dire que plus on avance dans les épisodes et plus on est pris et plus on a envie d'aller jusqu'au bout, malgré tout. Justement, là où le bât blesse, c'est un petit peu souvent le problème avec les séries françaises, malheureusement. Alors, est-ce que c'est véritablement un défaut des séries françaises ou bien c'est parce que c'est dans notre langue maternelle qu'on le voit plus ? Ça, je serais bien capable de te le dire avec certitude, mais au minimum, le jeu des acteurs pose, je trouve,
oui.
Souvent problème.
Moi, j'ai vu quelques images, hein, j'ai pas tout suivi, mais j'avais du mal.
Oui.
J'avais du mal avec... c'était parfois faux, alors de temps en temps t'arrivais à me le justifier. Oui, mais là on essaie de casser un... Enfin, c'est un mensonge, donc c'est normal qu'on soit pas tout à fait vrai dans... quand on le raconte. Ouais, ok, t'es gentil. Mais non, moi ça me... Allez, je sais pourquoi je n'ai pas regardé plus.
Oui, j'avoue que en tout cas pendant le premier épisode c'est plutôt gênant et ça nous sort toujours un petit peu de notre totale adhésion à la fiction qui nous est proposée, c'est dommage. Malgré tout, plus on avance et plus on se concentre sur le personnage principal et quelques à côté mais qui n'ont pas un rôle primordial. Et moins ça devient gênant parce que justement, finalement, l'acteur principal joue suffisamment bien pour qu'on finisse par y adhérer, quoi.
Voilà, tu rappelles le nom de cette série ?
Donc il s'agit d'Intrusion.
Voilà, qui était donc sur Arte il n'y a pas si longtemps.
Exactement.
La suite.
La suite, il s'agit cette fois-ci d'une série ABC qui s'appelle The Whispers.
Oui.
Et qui nous raconte une histoire assez étrange d'enfant qui parle avec une personne qui n'existe pas, qui s'appelle Drill, et qui apparemment les pousse à commettre des actes irréparables, du genre tuer leur maman ou ce genre de joyeuseté.
Ouais, c'est chouette.
Ouais, c'est plutôt chouette.
C'est présenté sous forme de jeu d'ailleurs, c'est à peine inquiétant.
C'est présenté comme un jeu, oui, on voit les enfants qui parlent tout seuls. On comprend qu'ils sont en train de parler à ce Drill en question, qu'ils sont les seuls à, non pas à voir, parce qu'eux-mêmes, je crois, ne les voient pas, mais au minimum, ils l'entendent. Et voilà, apparemment, ce Drill propose un jeu dans lequel il faut rentrer jusqu'au bout et accepter d'aller jusqu'au bout pour gagner. Gagner quoi, on ne sait pas, tout ça est extrêmement mystérieux. Et on a une enquêtrice, c'est une enquêtrice ou une psy, j'ai pas vraiment réussi à déterminer.
Les deux, hein, elle travaille pour une des agences américaines de recherche.
Voilà, mais je crois qu'elle doit être pédopsychiatre, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas,
si
c'est comme ça que moi je l'ai vécu, mais c'est vrai que c'était pas très clair dans ma tête. J'étais peut-être pas super attentive au moment où ils l'ont présenté, soit. Elle va commencer à s'intéresser à ces enfants-là. Elle pense qu'il y a quelque chose là derrière, que c'est pas uniquement des enfants qui ont perdu la raison à un moment et qui parlent avec un ami imaginaire. Il y a quelque chose de plus. Bon,
oui.
À tout ça vont se rajouter petit à petit de plus en plus de mystères et on se rend compte que la femme en question est elle-même liée très étroitement au mystère central. Mmh. Et donc, ça fait quand même beaucoup, mais on est quand même intrigué, faut avouer.
Ah, moi je reste encore accroché à cette petite série, hein. J'aimerais quand même voir où ils veulent nous amener.
Pour le moment, c'est vrai que ils n'ont pas encore réussi à nous dégoûter, à nous faire nous dire c'est déjà certain que ça ne mènera nulle part. C'est assez compliqué, donc il y a des chances qu'ils finissent par se planter, mais malgré tout, ils peuvent aussi nous surprendre.
On a encore deux hypothèses différentes, toi et moi, par rapport à ce qu'on interprète ou ce qu'on a envie d'avoir devant nos yeux bientôt.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est intéressant de voir vers quoi on va.
Oui, c'est plutôt sympa, bien joué, avec un bon suspense. Donc voilà, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil.
Tu rappelles le nom une nouvelle fois ?
Il s'agit de The Whispers.
Bien, bien. Un dernier pilote pour la route ?
Le dernier pilote, il s'agira de Stitchers. Cette fois-ci, c'est sur ABC Family.
Mmh.
Alors, nous avons à nouveau une héroïne principale qui, manifestement, a un syndrome assez bizarre qui fait qu'elle n'a pas véritablement conscience du temps qui passe. C'est donc, d'après ce qu'il raconte, chaque moment qu'elle vit, c'est comme si elle l'avait toujours vécu. Donc, par exemple, dans le pilote, on lui présente l'homme qui l'a élevé sur une table à la morgue, donc mort, et mais elle ne présente aucune émotion, et elle explique, ben oui, moi, au moment où je l'ai vu mort, c'est comme s'il avait toujours été mort. Donc elle avait déjà assimilé sa mort, comme si ça faisait très très longtemps que c'était comme ça.
Ouais, c'est le principe de la mémoire de poisson rouge, mais inversé.
Exactement, disons ça comme ça. Et donc on a cette fille qui est assez particulière dans ses réactions et dans sa manière d'être, et qui va être approchée par une agence, je crois qu'au final, ils disent que c'est la NSA, mais bon, bref, agence fédérale, donc...
Encore une de ces agences qui va tenter d'exploiter son talent.
Qui va essayer d'exploiter son talent, en l'occurrence, en la branchant à travers tout un système de bains et de câbles, etc., au cerveau de personnes qui sont mortes depuis moins de 48 heures, mm-hmm. afin d'accéder à leurs souvenirs.
Leurs derniers souvenirs, à essayer de comprendre.
Afin de pas forcément comprendre comment ils sont morts, mais au minimum, ce sont à chaque fois des morts qui sont susceptibles de révéler également d'autres dangers à venir, du genre des bombes qui ont été posées par-ci par-là, comme c'est le cas dans le pilote. Et donc, il faut retrouver s'il y a d'autres bombes encore à venir. Donc, voilà. Alors, c'est ABC Family et ça se sent, c'est-à-dire que ça reste quand même sur certains points un petit peu facile.
Oui.
Notamment, une des choses que je trouve pas aboutie, c'est ce syndrome et ce qu'ils en font. C'est-à-dire que y a quand même pas mal de moments où elle se fâche. Et quelque part, si tu es dans une situation où ce que tu vis, tu l'as toujours vécu, il n'y a aucune raison de se mettre en colère à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un truc...
Oui, mais bon, toi, t'es torturé, tu cherches la logique partout, tu
mais
veux
non,
un truc cartésien.
Tu proposes un
monde, un univers,
monde
une théorie,
départ,
voilà.
Il faut que tu t'y tiennes.
Mais oui, évidemment, Aurore.
Et bon, malheureusement... Là, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est sympathique.
Tu leur écrirais pas une petite lettre, un petit mail pour leur dire « Bon, améliorez-vous et
mais
je continue à vous regarder. »
Qui te dit que je ne passe pas toutes mes journées à écrire des petites bafouilles comme ça à tous les
Ça ne m'étonnerait pas, te connaissant avec ton ego surdimensionné, à redonner des leçons à tout le monde.
Ben oui, exactement.
T'aimes bien quand je te dis ça.
Ben oui.
Bon. Ben ok, donc pas abouti,
pas totalement,
totalement
abouti,
c'est
mais
pas acheté non plus.
Sympathique, pas du tout acheté parce qu'il y a une certaine originalité malgré tout.
Mmh.
Et bon, si ça ne tourne pas à l'affaire de l'épisode et puis pendant des saisons et des saisons comme ça et on n'avance pas, s'ils finissent par aboutir à quelque chose d'un petit peu plus construit, ça pourrait finir par devenir un monde intéressant.
Merci, ce sera le mot de la fin pour la revue des pilotes. On va marquer une petite pause musicale.
Oui, on va s'écouter Gauthier qui chante Somebody That I Used To Know, entendu chanter non pas par Gauthier mais par le cast dans Transparent.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Certain kind of sadness.
C'est toujours un plaisir de revenir sur ce générique-là. Vraiment, ok, il a marqué toute une génération. Limite ridicule quand même, hein. Non,
quoi?
Buffy,
comment
non, on ne peut pas toucher à Buffy.
Comment
ok, c'est bon, on continue, on parle. Alors, sujet du jour, ben on vous parlait de sexe dans les séries télé la semaine dernière, mais on avait loin, oh, très très loin, on était très loin d'avoir fait le tour de la question.
Ben oui, c'en était frustrant et c'est le comble pour une émission qui voulait parler de sexe quand même.
Mais oui, et donc bah, nous voilà de retour avec bah, tous les aspects non abordés encore de cette partie.
On va essayer cette fois-ci d'aborder ce dont on n'a pas réussi à parler la semaine passée. Et on va commencer par la manière dont peut être représenté le sexe généralement dans les séries. Et donc on va faire un petit topo des possibles, hein. Évidemment en comptant qu'il existe toujours des exceptions et qu'il existe aussi beaucoup de séries que je n'ai pas vues et donc forcément dont je n'aurais pas tenu compte.
Bon, ça va, on t'en veut pas, t'es une anthologie à toi toute seule de toute façon, donc le premier qui te critiquera,
Bah écoute,
hein? Donc tu pourras
je ne pourrais qu'admettre.
Un pavé, hein.
Alors,
dis-moi.
Bon, on va commencer tout simplement par les comédies. Dans les comédies, je crois que on peut admettre qu'il y a quasiment pas de représentation du sexe, ou vraiment très très peu. C'est parfois un
suggéré.
Peu mentionné, suggéré, mais sans plus. Hein. On ne va jamais jusqu'à montrer des gens sur le point d'eux, comme ça peut être le cas dans les drames. Ou... C'est assez rarement le cas. C'est probablement la raison pour laquelle c'était l'été passé, la comédie You're the Worst a eu un tel retentissement dès son pilote, parce que c'était assez, assez étonnant,
assez
rafraîchissant de voir une comédie qui abordait de manière aussi frontale la sexualité.
Ouais, moi, j'en ai une autre quand même qui est bien gentillette aussi, mais Mon Oncle Charlie, par exemple, de temps en temps, on aborde la question.
Oui.
Voilà, c'est léger, hein, attention, mais c'est plus que suggéré, quoi. Voilà, il tourne autour du pot,
oui,
c'est une partie de l'humour, quoi.
Forcément, oui, c'est suggéré, mais de là à être montré...
Non, c'est toujours très soft, ouais.
J'ai l'impression qu'on voit quand même très très peu ça. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai que c'est une série qui tourne énormément autour de la question, au minimum.
Ouais.
Moi, je pensais à une autre série qui, de manière quand même très très différente que You're the Worst, c'est-à-dire pas du tout sur le mode construction d'une relation amoureuse ou quoi que ce soit, mais qui malgré tout, par certains côtés, abordait quand même le sexe de manière assez frontale aussi, c'était Blue Mountain State. Qui, dans certains épisodes, montrent certaines choses, ou en tout cas les suggèrent fortement, et toujours avec une bonne dose d'humour, mais aussi pas froid aux yeux. Quoi.
Ouais, c'est assez graveleux. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, bon, ça c'est pour les comédies, on peut pas dire que c'est ça qui va vraiment faire notre éducation sexuelle, on n'en voit pas énormément, hein.
Non. Bon, alors, vers quoi tu nous aiguilles?
Bon, ensuite, on passe au drama. Alors, pour les dramas, j'ai l'impression, quand même très globalement, qu'on va pouvoir différencier deux types de scènes de sexe, entre guillemets. Hein. Et ce qui va les différencier, c'est tout simplement, est-ce que c'est du sexe avec amour ou du sexe sans amour?
Alors, juste le pote de baise ou alors le coup.
Voilà, alors il y a deux possibilités. Généralement, ces deux possibilités sont représentées de manière très différente. Quand on a du sexe avec amour, c'est généralement beaucoup, la caméra se fixe beaucoup sur la tête de la femme qui est en état plus ou moins d'extase. Généralement, ça se fait en face à face. Et généralement, ça se fait à l'intérieur de la maison.
Ouais.
Globalement, hein, on est à la maison.
T'as fait des petits calculs, des proportions.
Mais écoute,
t'as pris des petites fiches.
J'ai commencé, j'ai essayé. Le gros problème, c'est que malgré tout, j'essaie de m'y tenir, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois où j'oublie de tenir les comptes.
Ok, mais bon, globalement, on va te croire.
Donc voilà, on a donc cette représentation-là de l'amour extatique qui se vit à travers la fusion des corps, tel qu'on peut se la représenter de la manière la plus romantique possible.
Mais qu'est-ce que tu parles bien ?
Mais oui, je sais, je suis une poétesse en herbe.
Bon, et alors, les simples potes qui
alors,
s'amusent là.
Alors, maintenant, si on passe du côté « non, il n'y a pas d'amour », là, on va avoir beaucoup moins de gros plans sur les visages. Hein. C'est beaucoup plus dans...
Une globalité de corps, un mélange de
voilà,
corps.
Voilà. On les voit plus éloignés. Parfois, peut-être un petit peu l'homme, mais assez peu le visage de la femme ou... en tout cas, c'est beaucoup plus dans des endroits insolites et bien souvent à l'extérieur.
À l'extérieur, bah oui. Hein.
Ça n'est plus dans la maison et certainement pas dans un lit. On a quand même la majorité du temps, c'est par derrière. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais...
Je vois déjà sur ta petite fiche, alors une petite croix, c'est par derrière, encore une fois. Mais non, c'est bien, c'est
mais
studieux.
Mais écoute, je fais ce
toi.
Que je peux,
mais oui.
Je fais mes statistiques comme je peux.
Et tu es en train, quelque part, de fournir quasiment un fascicule, un lexique pour ceux qui apprendraient, je ne sais pas moi, la manière de tourner des films pour, ou des séries télé. Tu veux représenter une série où il y a des potes de baise, moi, c'est dehors, hein, toujours par derrière, pas de gros plan sur le visage
écoute,
de la fille.
Hein. En même temps, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, vu que c'est quand même... J'ai l'impression que c'est quasiment systématique, et
mais
de plus en plus.
Tu crois que si on fait un truc sur Google, on recherche manuel de d'emploi du réalisateur de série télé, c'est peut-être déjà documenté.
Mais peut-être.
Ok,
écoute.
Affaire.
Donc,
juste après.
Ça peut être dans une ruelle, ça peut être contre une voiture, ça peut être dans les toilettes, ça peut être dans un petit débarras ou un placard quelconque.
Mais jamais plan-plan.
Mais de toute façon, c'est plutôt dans l'ombre ou assez sombre. On voit que de toute façon, il n'y a pas vraiment de contact des visages ou visuel. Hein. C'est vraiment simplement un contact des parties génitales et pas beaucoup plus. Voilà.
Bah c'est déjà pas mal. Hein. Mais bon,
écoute,
certains s'en contentent,
au minimum, il n'y a pas de malentendu. Il est clair que ils se parlent pas, ils ne se regardent pas, donc ils doivent pas vraiment faire ça par amour. Mais il y a quand même une certaine systématicité dans le fait que si vraiment t'es amoureux, tu peux le faire que d'une certaine manière, et si t'es pas amoureux, tu le fais autrement. Enfin, tu vois, il y a quand même une sorte de norme qui est établie comme ça. Comment on fait l'amour quand on est vraiment amoureux, et puis comment on fait l'amour quand on n'est pas vraiment amoureux.
Ouais, ouais, vraiment, il y a un bouquin à écrire là, sur le sujet, je le sens.
Écoute,
tu le tiens bien en tout cas. Hein.
moi, je trouve que oui. Alors, il y a une autre catégorie aussi qui existe. J'aimerais quand même souligner, en tant que femme, hein,
mm-hmm.
Oui, je suis une femme, qu'il est... clair à 100% dans ces représentations-là, qu'il est impossible que les femmes en question prennent le moindre plaisir, vu qu'à aucun moment on ne suggère qu'elles fassent quoi que ce soit pour y prendre du plaisir. Quoi. C'est vraiment assez...
Bon, ok, c'est bon. T'as fini ta revendication de plaisir féministe.
Mais écoute, je suis désolée.
Tu es
mais...
frustrée de voir ces pauvres filles ne pas prendre leurs pieds à l'écran.
Cette manière de représenter le sexe un petit peu léger comme étant uniquement l'apanage des hommes, puisque à moins de faire croire que les femmes y prennent du plaisir aussi, ce qu'on ne croit pas, je vois pas bien comment on peut comprendre ça autrement que Oui, quand c'est pas par amour, il y a que les hommes qui peuvent prendre du plaisir. Et quand c'est par amour, là par contre, comme on se concentre tellement sur la tête de la femme et sur sa tête extatique, que quand c'est par amour, c'est forcément la femme qui prend plus de plaisir.
Ah, on a compris le principe. Merci. Bon, là, c'est... Alors.
Et il y a aussi, de temps en temps, des femmes qui le font pas par amour. Et généralement... Soit c'est pas bon, soit c'est parce qu'elles sont vraiment pas bien dans leur peau, folles ou ce genre de choses. Ça revient à ce que je dis. Quand c'est pas par amour, c'est que la femme doit être un petit peu dérangée quand même, ou au minimum, elle y prend pas du plaisir, quoi.
Elle est bien punie.
Mais j'espère bien, en tout cas, la salope.
Voilà.
Bon.
Alors,
ça c'est fait. Alors, on va terminer avec la dernière chose dont je voulais parler, c'est les séries qui représentent la sexualité de manière symbolique. Et pour cela, évidemment, les séries fantastiques sont les plus explicites. Les séries comme Buffy, comme True Blood, comme Angel, dont un des propos principaux est quand même globalement la représentation symbolique de la sexualité, des problématiques autour de la sexualité, à travers quasiment chaque épisode et chaque manière possible de les représenter.
Mmh. Très romancé aussi, enfin, tu vois.
Très romancé, mais où il y a vraiment moyen d'aller chercher dans l'interprétation super loin ce qu'on peut en tirer comme message, vu que on pourrait se dire quelque part, notamment quand on regarde une série comme Buffy, que ben, finalement il y a une manière de présenter la sexualité comme quelque chose de dangereux, de sale, de mal, etc. Et donc de faire peur, et donc ce serait une série conservatrice, mais en même temps c'est beaucoup plus compliqué que ça, vu que c'est pas vraiment la sexualité en elle-même qui est remise en question, mais certaines formes de déchaînement d'instincts malsains qui peuvent à certains moments prendre pied dans la sexualité et la faire dévier sur une route dangereuse. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment à travers le fantastique il y a moyen de travailler toutes ces questions-là de manière quand même assez fine, parce que on peut en parler de plein de manières différentes.
Bien. Merci pour cette belle parole. La musique nous rejoint là tout de suite. Je te laisse la présenter.
Oui, il s'agit de Catering de The Antlers, entendu dans Sense8.
That I'd known in that first minute we met, the
Nous voilà de retour, on vous parle sexe dans les séries télé. Alors j'ai l'impression qu'on en a parlé de manière plus ou moins générale. Souvent on décrit un couple d'un homme et femme. On a beaucoup tourné autour de la question hétéro.
Oui.
Mais qu'en est-il des autres genres ?
Eh bien voilà, justement, c'est un petit peu ce qui va nous occuper pour le reste de l'émission, en effet. Mais on a déjà dit, j'ai déjà dit, il me semble, dans d'autres émissions, que le fait de jouer sur nos imaginaires faisait des séries, des sortes de producteurs de normes.
Mmh.
Mais forcément, quand on parle de sexualité également, le fait de représenter ou pas d'autres formes de sexualité, ça va avoir énormément d'importance également sur notre manière de nous représenter la sexualité. Et donc, si on représente une grande variété de sexualités différentes, forcément, ça devrait, j'imagine, nous ouvrir l'esprit à toutes ces sexualités différentes également.
Mmh. Oui, normal,
si
logique.
Si on y réfléchit un petit peu, j'ai l'impression que, a priori, on va se dire oui, mais dans les séries, c'est quand même, en tout cas au minimum, l'homosexualité est quand même pas mal représentée. En vérité, je crois que c'est plus une impression qu'autre chose. Parce que si on réfléchit à toutes nos séries préférées, à nos personnages préférés et véritablement aux enjeux qui se déroulent à l'intérieur de ces séries, c'est pas si fréquent que ça que les homos ou même d'autres rapport à la sexualité soit représenté et soit traité de manière aussi évidente.
Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à la masse. Donc il y a certaines, on va dire, séries généralistes qui vont peut-être se donner une sorte de quota à respecter de représentation.
Il y en a.
D'autres gens. Maintenant, à côté de ça, dans la masse, une nouvelle fois, tu as quand même un nombre de séries, peut-être réduit, mais qui ne font que de parler que de ça, enfin, c'est leur core business, donc à ce moment-là, on peut pas leur reprocher d'y mettre la part belle.
Non, bien sûr, mais le problème, évidemment, c'est toujours d'essayer d'éviter la ghettoisation de ce genre de problématique. Mmh. Et donc, plus ce sera intégré et naturellement accepté comme une évidence, et plus on s'éloignera de cette norme hétérosexuelle comme ça qui nous est a priori assez naturelle parce que imposée à nous depuis toujours.
Oui, malgré ce petit défaut du fait que, de temps en temps, oui, ok, il y a encore cette ségrégation des séries spécialisées dans le domaine, on va dire, qui en font leur porte-drapeau, elles sont quand même beaucoup plus présentes qu'avant, ça on peut pas le nier. Donc il y a quand même une tentative de... comment dire ?
Je crois, oui, que petit à petit, ça fait son chemin. Mais contrairement à une première impression qui est de se dire, oui, quand même, il y a énormément d'homosexuels qui sont représentés dans les séries. Mais en vérité, si on y réfléchit bien, c'est toujours dans des rôles et des problématiques plutôt secondaires, voire tertiaires. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais ça n'est toujours pas, en tout cas, l'équivalent de du héros blanc hétérosexuel tel qu'il est quand même majoritairement représenté. Ça fait son chemin, mais on n'en est pas encore véritablement à une... au fait que ça nous paraisse naturel que certains de nos héros principaux soient homosexuels sans que ça ne soit problématisé.
Ok, oui, c'est une vision des choses.
Alors, quelques exemples. Mais dans les comédies, on va avoir d'un côté les comédies qui sont encore très très normés et qui vont par exemple faire des blagues assez lourdes sur le fait que l'un ou l'autre personnage soit éventuellement avec des tendances homosexuelles, et le fait d'en faire sujet à plaisanterie, c'est plutôt pas une manière d'aller à l'encontre de cette norme-là. Maintenant, il existe aussi de plus en plus de séries dans lesquelles il y a la présence d'un personnage homosexuel. Présence plus ou moins stéréotypée, on a quand même assez souvent l'homosexuel très efféminé. Bon, dans quelle mesure ça s'intègre ou pas, ben ça, d'une série à l'autre, ça peut varier énormément. Il y a aussi des séries qui font le choix d'avoir tout simplement un personnage homosexuel sans qu'à aucun moment ce ne soit véritablement stéréotypé ou problématisé ou ce genre de choses. Je pense par exemple à The Office, dans laquelle on a Oscar qui est un personnage assez banal, qui passe assez inaperçu, il se fait qu'il est homosexuel, mais ça n'est pas véritablement un problème en soi.
Non, et c'est pas mis en avant non plus.
Voilà. Ça n'en fait pas un personnage exceptionnel ou particulièrement mis en avant pour sa féminité, la féminité de ses gestes ou je ne sais quoi. Enfin, donc voilà, il y a un petit peu toute la gamme qui est possible dans les comédies à ce niveau-là. Et puis du côté des drames, ben, on va avoir d'un côté les drames qui problématisent énormément la question, et donc c'est toute la difficulté d'intégration qui va être traitée. Et puis d'un autre côté, on a plus des séries qui nous présentent des personnages qui se trouvent être homosexuels, mais ça n'est pas véritablement le problème de la série. Et ben, est-ce que le fait de les traiter comme étant avec toutes les difficultés d'intégration que ça comporte, ou bien de les traiter comme étant déjà un fait intégré dans la mentalité, lesquels des deux vont œuvrer le plus? Ben, je crois qu'il faut un petit peu des deux. On va essayer de donner plein d'exemples dans la dernière partie pour illustrer ça. Donc voilà, on a un petit peu de tout. C'est assez difficile de savoir exactement quel sera le mode de représentation qui servira le mieux l'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Mais on peut constater qu'il y a beaucoup de possibilités, quoi.
Bien, et aussi un bel effort à ce niveau-là, je pense.
Voilà.
Merci, on va se retrouver dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. Juste après, la musique.
Oui, il s'agit de Strange Love de Slim Harpo, entendu dans True Blood.
Strange love, cutest thing I ever seen. Strange love, cutest thing I ever seen. You remind me of something that I seen in a dream. Can I take you out to dinner? Some place where we can be alone. Can I take you out to dinner? Some place where we can be alone. Tell you how much I love you. Hold you in my honey, love to be your honeycomb. You as sweet as any honey. I love to be your honeycomb. Then when the time is right, darling,
loving going on.
Eh bien, nous voilà déjà de retour pour cette dernière partie de l'émission avec, comme on vous l'a dit, on va tenter de vous donner quelques exemples de représentations d'autres genres autour de la sexualité dans les séries télé.
Oui, donc ici, j'ai essayé de faire deux sortes de listes. La liste des séries dans lesquelles c'est principalement quand même l'homosexualité, et d'ailleurs, faut le souligner malgré tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus l'homosexualité masculine que féminine,
ouais.
Qui est quasiment invisibilisée sur ces matières-là. Mais donc, il y a les séries dans lesquelles c'est véritablement problématisé, et donc ces séries-là permettent de particulièrement bien mettre en avant les difficultés que peuvent rencontrer les homosexuels dans leur chemin vers la reconnaissance. Et puis, les séries dans lesquelles ils sont intégrés et présentés de manière beaucoup plus naturelle, ce qui, à sa manière, œuvre également pour une plus grande reconnaissance de leur existence dans la vie quotidienne, tout simplement, sans que ça doive sans arrêt poser question, quoi.
Mm-hmm.
Donc c'est deux manières
de normalité, quoi.
Voilà, c'est deux manières de faire avancer le sujet. Alors, dans les séries qui problématisent la question, il y a les séries historiques, notamment, qui vont forcément avec la mentalité de l'époque
oui, évidemment, ça n'aide pas.
On a un certain rejet de l'homosexualité. Il y a, me semble-t-il, un cas dans Mad Men, notamment. Il y a aussi un cas dans, un ou plusieurs cas d'ailleurs, dans American Horror Story. Dans Downton Abbey également, le personnage de Thomas est intéressant à ce niveau-là, dans simplement là le fait de montrer que c'est loin d'avoir été une évidence, et que pendant très très longtemps ça a été particulièrement problématique et source de souffrance d'être homosexuel. C'est aussi montrer et problématiser dans certains milieux dans lesquels c'est mal vu d'être homosexuel, comme dans Nashville par exemple, où apparemment le public de la country ne serait pas prêt à accepter un chanteur country homosexuel. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure c'est avéré ou pas, je ne connais pas suffisamment le public en question. Alors, on a aussi dans Les Sopranos, on a un personnage qui, à un moment, s'enfuit parce que on finit par découvrir qu'il est homosexuel, et apparemment, dans la mafia, c'est plutôt pas bien vu.
Ah, oui, tout à fait.
Donc, ça risque de lui poser quelques problèmes. On a aussi, au niveau des adolescents et des difficultés que peuvent rencontrer les adolescents, on a dans Dawson un exemple d'une découverte d'une homosexualité particulièrement difficile, et on suit pas à pas ce personnage qui va avoir quand même pas mal de mal à s'accepter.
Et qui va nous faire verser quelques larmes.
Oh, arrête de te moquer, franchement.
De ta
j'en
série.
Ai marre.
Hein.
J'en ai marre.
C'est de Dawson dont je me moque.
Hein. Oui, bien sûr. Donc, éventuellement également dans Glee, même si j'ai moins suivi, j'ai vu que la première saison, donc j'ai probablement pas tout vu, mais au minimum, il me semble que le personnage homosexuel dans Glee a pas mal de mal à se faire accepter par son père. Alors, dans Major Crime, on a également un jeune adolescent qui va être dans une scène particulièrement touchante, rejeté par sa mère biologique de manière assez, assez choquante, je dois dire, je ne m'en suis toujours pas remise.
Tu vois que tu verses des larmes.
Mais oui, mais oui.
J'avais juste pas identifié la bonne série, c'est tout. Mais...
Et on a aussi, dans Six Feet Under, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un adolescent, mais une grande, grande difficulté, notamment liée à la religion et à la difficulté de se faire accepter dans sa famille aussi, même si finalement, ça ne se passe pas trop mal. Mais le personnage de David se coltine avec son homosexualité de manière assez douloureuse également. Et puis, il y a des séries où c'est un petit peu problématisé, mais en même temps, finalement, c'est assez vite admis, comme dans My Mad Fat Diary, où on a un personnage qui est homosexuel, qui essaie de le cacher, et puis finalement, on se rend compte que c'est assez facilement reconnu par les autres et que ça finit par pas poser de problème. Dans True Blood également, on a tout ça qui est assez problématisé, l'intégration, comment faire accepter la différence, etc. Ce sont des sujets qui sont beaucoup abordés. Dans les séries qui intègrent sans véritablement trop problématiser cette question-là des homosexuels, on va pouvoir citer notamment Grey's Anatomy, Les Revenants, Orphan Black, Smash, Southland, Buffy qui est une des rares séries à parler d'homosexualité féminine malgré tout. Une autre homosexuelle féminine, on peut en trouver une dans The Bridge. Sinon, on revient on a aussi Chasing Life, dans laquelle on a une homosexuelle féminine.
Bah, tu vois qu'il y en a.
Et dans One Big Happy, comédie de cette année-ci. Maintenant, on revient du côté masculin et on va encore pouvoir citer The Original, The Wire, Backstrom, Looking, The Walking Dead, cette saison-ci, Girls, The Office, Modern Family, Unbreakable Kimmy Schmidt, The New Normal, Faking It, même si on a deux filles qui font semblant d'être homosexuelles parce que c'est devenu tellement bien, tellement reconnu que faire semblant d'être homosexuel, c'est devenu super hype. Et je peux citer aussi Angela, 15 ans, dans laquelle on a un personnage... un jeune adolescent également homosexuel. Donc on voit qu'il y a quand même une assez grande.
Ça reste marginal, mais à l'écoute de ta longue liste, ça commence à s'immiscer à droite à gauche.
Mais malgré tout, tu vois, c'est toujours malgré tout des intrigues secondaires, des personnages secondaires, etc.
On a compris ton combat.
On peut citer évidemment The L Word et Queer as Folk qui, elles, sont véritablement centrées sur ces milieux-là, mais comme c'était pas le sujet ici, je ne fais que vous les citer.
Pour être complète en gros.
Voilà.
Eh bien, merci à toi. Ça se termine déjà. Dernière émission, je veux dire, de type normal, puisque la semaine prochaine, nous reviendrons avec la dernière de la saison qui fera quoi ? On fera une sorte de florilège, un résumé de la saison passée.
On va faire un bilan de la saison et peut-être donner quelques conseils pour cet été.
Bah oui, il faut pas qu'on s'ennuie non plus sous le soleil.
Mais non, t'imagines.
Imaginons qu'il pleuve en Belgique.
Imagine qu'on doive ouvrir un livre, par exemple. Ce serait horrible.
Non. On va vous sauver. On va vous donner plein d'idées pour rester devant votre petit écran. néanmoins, on essaiera que ce soit avec parcimonie. Bon, bref, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez toute l'actu de votre émission préférée via le site internet, notamment le www.seriefolie.be, Seriefolie en un mot avec SAS Série, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et alors le podcast. N'oubliez pas de vous abonner, vous le recevrez quasiment automatiquement, histoire de nous réécouter, parce que parfois c'est très compliqué. Il faut écouter l'émission plusieurs fois avant de tout comprendre. Moi, ça m'arrive très souvent.
Oui, c'est ça.
Merci Aurore, à la semaine prochaine en pleine forme pour la dernière de la saison.
Oui, je présente la musique de fin peut-être.
Mais bien sûr. Tu es concentré jusqu'au bout, c'est magnifique.
Mais oui, alors on va s'écouter Sleep des Dandy Warhols, entendu dans Queer as Folk.